L'abbé partit donc le vendredi et il se trouvait à la gare de Lyon le dimanche matin pour prendre avec ses trois gamins le rapide de 8 heures, le nouveau rapide direct organisé depuis quelques jours seulement sur la réclamation générale de tous les baigneurs de l'Auvergne. Il se promenait sur les quais de départ, suivi de ses poussins, et il cherchait un compartiment en vide ou occupé par des gens d'aspect respectable, car il avait l'esprit hanté par toutes les recommandations minutieuses que lui avaient faites mesdames de Sarcagne, de Vaulacelle et de Bridoy. Or, il aperçut tout à coup devant une portière un vieux monsieur et une vieille dame à cheveux blancs qui causaient avec une autre dame, installée dans l'intérieur du wagon. Le vieux monsieur était officier de la Légion d'honneur, et ces gens avaient l'aspect le plus comme il faut. « Voici mon affaire, » pensa l'abbé. Il fit monter les trois élèves et les suivit. La vieille dame disait, « Surtout, soigne-toi bien, mon enfant. » La jeune répondit, « Oh oui, maman, ne crains rien. Appelle le médecin aussitôt que tu te sentiras souffrante. Oh oui, maman. Alors, adieu, ma fille. Adieu, maman. » Il y eut une longue embrassade, puis un employé ferma les portières et le train se mit en route. Ils étaient seuls. L'abbé, ravi, se félicitait de son adresse et il se mit à causer avec les jeunes gens qui lui étaient confiés. Il avait été convenu le jour de son départ que Madame de Martinsec l'autoriserait à donner des répétitions pendant toutes les vacances à ses trois garçons et il voulait sonder un peu l'intelligence et le caractère de ses nouveaux élèves. Son discours fut interrompu par un profond soupir que poussa leur voisine. Il tourna la tête vers elle. Elle demeurait assise dans son coin, les yeux fixes, les joues un peu pâles. L'abbé revint à ses disciples. Le train roulait à toute vitesse, traversait des plaines, des bois, passait sous des ponts et sur des ponts, secouait de sa trépidation frémissante le chapelet de voyageurs enfermés dans les wagons. Gontran de Vaulacelle, maintenant, interrogeait l'abbé Lecuir sur Roya, sur les amusements du pays. Y avait-il une rivière? Pouvait-on pêcher? Aurait-il un cheval comme l'autre année? Etc. La jeune femme, tout à coup, jeta une sorte de cri, un « Ah !» de souffrance, vite réprimée. Le prêtre, inquiet, lui demanda « Vous sentez-vous indisposé, madame ?» Elle répondit « Non, non, monsieur l'abbé, ce n'est rien, une légère douleur, ce n'est rien. Je suis un peu malade depuis quelque temps. » Et le mouvement du train me fatigue. Sa figure était devenue livide, en effet. Il insista, si je puis quelque chose pour vous, madame. Oh non, non, rien du tout, monsieur l'abbé. Je vous remercie. Le prêtre reprit sa causerie avec ses élèves, les préparant à son enseignement et à sa direction. Les heures passaient. Le convoi s'arrêtait de temps en temps, puis repartait. La jeune femme, maintenant, paraissait dormir, et elle ne bougeait plus, enfoncée en son coin. Bien que le jour fût plus qu'à moitié écoulé, elle n'avait encore rien mangé. L'abbé pensait, cette personne doit être bien souffrante. Il ne restait plus que 2 heures de route pour atteindre Clermont-Ferrand, quand la voyageuse se mit brusquement à gémir. Elle s'était laissée presque tomber de sa banquette et appuyée sur les mains, les yeux hagards, les traits crispés, elle répétait, oh mon Dieu, oh mon Dieu. L'abbé s'élança, madame, 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 qu'avez-vous? Elle balbutia, je crois que je vais accoucher. Et elle commença aussitôt à crier d'une effroyable façon. Elle poussait une longue clameur affolée qui semblait déchirer sa gorge au passage. Une clameur aiguë, affreuse, dont l'intonation sinistre disait l'angoisse de son âme et la torture de son corps. Le pauvre prêtre, éperdu debout devant elle, ne savait que faire, que dire, que tenter. Et il murmurait, « Mon Dieu, si je savais, mon Dieu, si je savais !» Il était rouge jusqu'au blanc des yeux, et ses trois élèves regardaient avec stupeur cette femme étendue qui criait. Tout à coup, elle se tordit. Élevant les bras sur sa tête et son flanc eut une secousse étrange, une convulsion qui la parcourut. L'abbé pensa qu'elle allait mourir, mourir devant lui, privé de secours et de soins par sa faute. Alors il dit d'une voix résolue, « Je vais vous aider, madame. Je ne sais pas, mais je vous aiderai comme je pourrai. Je dois mon assistance à toute créature qui souffre. » Puis, s'étant retourné vers les trois gamins, il cria, « Vous allez passer vos têtes à la portière, hein ? Et si l'un de vous se retourne, il me copiera 1000 vers de Virgile. » Il abaissa lui-même les trois glaces, y plaça les trois têtes, ramena contre le cou les rideaux bleus, et il répéta, « Si vous faites seulement un mouvement, vous serez privé d'excursion pendant toutes les vacances. Et n'oubliez point que je ne pardonne jamais, moi. » Et il revint vers la jeune femme, en relevant les manches de sa soutane. Elle gémissait toujours et par moments hurlait. L'abbé, la face cramoisie, l'assistait, l'exhortait, la réconfortait, et sans cesse il levait les yeux vers les trois gamins qui coulaient des regards furtifs, vite détournés vers la mystérieuse besogne accomplie par leur nouveau précepteur. « Monsieur de Vaulacelle, vous me copierez 20 fois le verbe désobéir » cria-t-il. « Monsieur de Bridoy, vous serez privé de dessert pendant 1 mois !» Soudain, la jeune femme cessa sa plainte persistante, et presque aussitôt un cri bizarre et léger, qui ressemblait à un aboiement ou à un miaulement, fit retourner d'un seul élan les trois collégiens persuadés qu'ils venaient d'entendre un chien nouveau-né. L'abbé tenait dans ses mains un petit enfant tout nu. Il le regardait avec des yeux effarés. Il semblait content et désolé, prêt à rire et prêt à pleurer. On l'aurait cru fou, tant sa figure exprimait de choses par le jeu rapide des yeux, des lèvres et des joues. Il déclara, comme s'il eût annoncé à ses élèves une grande nouvelle, « C'est un garçon. » Puis, aussitôt, il reprit, « Monsieur Tsarkaïn, passez-moi la bouteille d'eau qui est dans le filet. »« Bien, débouchez-la. Très bien. Versez-moi quelques gouttes dans la main. Seulement quelques gouttes. Parfait. » Et il répandit cette eau sur le front nu du petit être qu'il portait en prononçant, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Le train entrait en gare de Clermont. La figure de Madame Bridoy apparut à la portière. Alors l'abbé, perdant la tête, lui présenta la frêle bête humaine qu'il venait de cueillir en murmurant « C'est madame qui vient d'avoir un tout petit accident en route. » Il avait l'air d'avoir ramassé cet enfant dans un égout. Et les cheveux mouillés de sueur, le rabat sur l'épaule, la robe maculée, il répétait « Ils n'ont rien vu, rien du tout. J'en réponds. » Il regardait tout droit par la portière. « J'en réponds. Ils n'ont rien vu. » Et il descendit du compartiment avec quatre garçons au lieu de trois qu'il était allé chercher, tandis que mesdames de Bridoy, de Vaulacelle et de Sarcagne, livides, échangeaient des regards éperdus sans trouver un seul mot à dire. Le soir, les trois familles dînaient ensemble pour fêter l'arrivée des collégiens. Mais on ne parlait guère. Les pères, les mères et les enfants eux-mêmes semblaient préoccupés. Tout à coup, le plus jeune, Roland de Bridoy, demanda « Ni maman, où l'abbé l'a-t-il trouvé, ce petit garçon ?» La mère ne répondit pas directement. « Allons, dîne, et laisse-nous tranquille avec tes questions. » Il se tut quelques minutes, puis reprit. « Il n'y avait personne que cette dame qui avait mal au ventre. » C'est donc que l'abbé est précipitateur, comme Robert Houdin, qui fait venir un bocal de poisson sous un tapis. « Tais-toi, voyons ! C'est le bon Dieu qui l'a envoyé. » « Mais où l'avait-il mis, le bon Dieu ? Je n'ai rien vu, moi. Est-il entré par la portière ?» dit Madame de Bridoy, impatientée, répliqua. « Voyons, c'est fini, tais-toi ! Il est venu sous un chou, comme tous les petits-enfants. » Tu le sais bien. Mais il n'y avait pas de chou dans le wagon. Alors Gontran de Vaulacelle, qui écoutait avec un air sournois, sourit et dit, si, il y avait un chou. Mais il n'y a que Monsieur Curé qui l'a vu.